الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم وهذه الأمسية هو اليوم الثالث عشر من شهر شعبان من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس 35 من شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 28 avril 2018 et nous voici réunis pour le 35e cours de l'étude de cet écrit bénéfique Al-Aqidatul Wasitiyya du Cheikh Cheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Toujours dans le chapitre concernant les mérites des nobles compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la position des gens de la sunna face à eux, le devoir du croyant à l'égard des compagnons du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. L'auteur rahimahullah nous a enseigné que les gens appelés Ahlu Badrin, les gens de Badr, Allah tabaraka wa ta'ala leur a dit: I'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Faites ce que vous voulez, car je vous ai déjà pardonné. Et on a vu l'explication donnée de ce récit. Ensuite, l'auteur rahimahullah dit: وَبِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ 1400. En nous parlant toujours des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, de même, ça me fatigue, l'auteur, rahimahullah ta'ala, dit, de même, les gens de la sunna croient que aucun parmi ceux qui ont prêté allégeance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en dessous de l'arbre, n'entrera au feu. Au contraire, Allah les a tous agréés. Et ils ont tous été satisfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils étaient ce jour-là plus de 1400. De quoi parle l'auteur, rahimahullah ta'ala? Nous sommes toujours dans l'ordre du rang occupé par les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en fonction de leurs bonnes actions et de leurs mérites. Il s'agit ici de plus d'un millier de personnes, plus de 1400, certains ont dit 1300, d'autres ont dit 1500, mais le Cheikh Salih al-Fawzan dit qu'à partir du récit authentique dans ce récit, ils étaient 1400. Wallahu ta'ala a'lam. En l'an 6 de l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, après avoir fait un rêve, a décidé d'aller à Mecca en provenance de Médine pour l'accomplissement de la Umra, non pas dans le but de s'opposer à Quraysh pour le combat. Et en route, plusieurs choses se sont passées, parmi lesquelles ils ont été empêchés d'avancer et n'ont pas pu accomplir cette Umra. Ils ont fait halte dans un endroit, Al-Hudaybiyah, et c'est de là que le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agré, celui qui épousa deux de ses filles, sallallahu alayhi wa sallam, non pas en même temps, mais l'une décéda puis il épousa la seconde. Il l'a envoyé voir les gens de Quraysh afin de leur dire qu'ils ne sont pas venus pour combattre, ils sont venus pacifiquement, simplement pour accomplir la Umra, cette action pieuse qui contient la circumambulation, autour de la Kaaba, le fait de tourner autour de la Kaaba. Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, ayant quelque peu tardé à revenir, une rumeur s'est répandue. Cette rumeur disait que Uthman a été tué, radiyallahu ta'ala anhu. Après l'avoir entendu, le prophète alayhi salatu wassalam était sous un arbre. Il a réuni les compagnons qui étaient avec lui et chacun d'eux lui a prêté allégeance, sallallahu alayhi wa sallam, et chacun d'eux s'est engagé à combattre à ses côtés pour défendre l'honneur de Uthman, car il y avait la rumeur qu'il avait été tué, alors qu'en réalité Uthman n'était pas mort, radiyallahu ta'ala an. Et donc lorsqu'ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous un arbre, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour eux tous son agrément. Cette action, Allah subhanahu wa ta'ala l'a aimée et en a parlé. Il a vanté les mérites des compagnons dans la surah, suratul fath, la conquête ou la victoire. Et lorsque vous revenez à l'explication des savants, et parmi les explications simplifiées, celle de l'imam As-Sa'di, rahimahullah, vous voyez, qu'il nous raconte ce qui s'est déroulé de manière résumée. Ainsi, cette action leur a été la cause pour eux de l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah a dit dans le verset, « لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ » Allah a été satisfait des croyants qui t'ont prêté allégeance en dessous de l'arbre. Allahu Akbar. Et ils étaient plus de 1400. On appelle cette allégeance « Bay'atul Ridwan », l'allégeance de l'agrément, en référence à ce verset qui fait la mention de l'agrément d'Allah gagné par ces gens-là suite à cette noble action qui est celle de s'être engagé aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cette raison, ces gens-là sont aimés par les croyants, par les gens de la sunna, et cela fait partie de la croyance de Ahl Sunna, d'aimer ces gens-là, et de croire qu'ils font partie des meilleurs parmi les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, a dit que l'auteur a cité deux de leurs particularités ici. La première, aucun d'entre eux n'entrera en enfer. Aucun d'entre eux n'entrera en enfer. Le récit est rapporté par l'imam muslim d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit très explicitement, « La yadkhulu an-nara ahadun bay'a tahta ash-shajarah » Aucun ayant prêté allégeance sous l'arbre n'entrera au feu. Il n'y a pas plus clair. Deuxième particularité de ces gens-là, Allah Azza wa Jal les a agréés. Allah est satisfait d'eux. On le voit dans le verset, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah a agréé les croyants qui t'ont prêté allégeance sous l'arbre. Puis l'auteur, rahimahullah, dit وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَالْعَشَرَةِ وَثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ. Également, les gens de la sunna témoignent de l'entrée au paradis pour ceux pour lesquels a témoigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans certains récits, plusieurs, nous voyons que le prophète alayhi salatu wa sallam nous donne des noms de manière spécifique de ses compagnons en nous disant qu'ils entreront au paradis. Les gens de la sunna croient que tous ceux qui ont été cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant des gens qui entreront au paradis, entreront au paradis, sans divergence. Parmi les nobles compagnons, il nous dit, comme les 10, également Thabit ibn Qays ibn Shammas et autres parmi les compagnons. Lorsqu'il nous dit parmi les dix, il fait référence à un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam où dix compagnons ont été cités. Et on les appelle al-asharatul mubashsharun bil jannah, les dix promus au paradis, les dix à qui on a fait la promesse de l'entrée au paradis, de leur vivant. Subhanallah. Comment peut-on détester des gens comme ça? Des gens qui, pendant qu'ils étaient vivants, savaient qu'ils allaient entrer au paradis après leur mort. Allahu Akbar. Et qui sont-ils? Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu ta'ala an. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu an. Uthman ibn Affan. Ali ibn Abi Talib. Ce sont les quatre califes que vous connaissez tous. Rassurez-moi. Cinquièmement, Abdurrahman ibn Auf, qui faisait partie des riches parmi les Sahaba et qui était venu de l'émigration. Il avait quitté la Mecque où il avait délaissé tous ses biens, tout son argent. Il est arrivé à Médine. Et lorsqu'il est arrivé à Médine, le prophète alayhi salat wa salam lui a dit « Désormais, tu fréquenteras Sa'd ibn Rabi', un des plus riches de Médine. » Et Sa'd radiyallahu anhu lui a dit « Je fais partie des plus riches ici. Regarde de tout ce que je possède, ce qui te plaît, je t'en donne la moitié. J'ai deux épouses, je m'en sépare d'une et tu la prends. » Allahu Akbar. Abdurrahman ibn Auf lui a dit « Non, et qu'Allah bénisse tes biens, mais indique-moi plutôt où est le marché, je vais aller. » C'est-à-dire, je vais me débrouiller. Je ne demande pas. Et Allah Azza wa Jalla lui a mis une grande baraka et il a rejoint le nombre des riches parmi les sahaba. Radiyallahu ta'ala anhum. Wa Zubayr ibn al-Awam wa Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu an. Wa Zubayr ibn al-Awam, ça fait 6. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu an. Wa Sa'id ibn Zayd wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhum. Ce sont les dix compagnons que l'on appelle les dix, ou alors les dix promus au paradis. En arabe, al-ashara al-mubashsharuna bil-jannah. Qui ont été détestés à l'exception de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, par les rawafid. Au point où dans leur croyance, ils tirent le mauvais augure du chiffre 10. Pour eux, 10 est égal à ce terme familier, la poisse. A'oudhou billah. Quelle raison ont eu ces gens-là? 10 pour eux, c'est synonyme de malheur à cause de ce hadith-là. Au lieu d'être pour eux un synonyme de bonheur et d'augmentation de leur foi et de leur amour pour les compagnons, voilà comment ils ont fait face à ce récit-là. L'auteur nous dit également Thabit ibn Qays, ibn Shammas, qu'Allah l'agré. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a témoigné de son entrée au paradis. Et son récit est rapporté par l'imam al-Bukhari. Dans celui-ci, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est inquiété pour Thabit qu'il ne voyait plus. Il a interrogé quelques-uns parmi les compagnons. L'un d'entre eux lui a dit « Ô messager d'Allah, je vais aller prendre ces informations. » Il est allé chez lui et l'a vu isolé dans sa maison en larmes. Il lui a dit « Qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Ou alors, il l'a interrogé sur la raison pour laquelle on ne le voyait plus. Thabit ibn Qays, regardez les cœurs des compagnons, a dit « Allah a dit dans le Coran « La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi » N'élevez pas vos voix au-dessus de celle du prophète. Jusqu'à la fin du verset. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Vos œuvres deviendraient vaines alors que vous ne vous rendez pas compte de cela. Il a dit, et moi, quand je parle, j'ai une voix portante qui est plus forte que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes actions sont vaines, je fais partie des gens du feu. Allahu Akbar. Le compagnon est revenu voir le prophète, alayhi salat wa salam, et l'a informé. Le prophète, sallallahu alayhi wa salam, lui a dit, non, retourne le voir, et dis-lui, tu ne fais pas partie des gens du feu, tu fais partie des gens du paradis. Allahu Akbar. Radiallahu ta'ala an. L'auteur a dit, et d'autres parmi les compagnons, il y en a plusieurs, Fatima, radiallahu anha, lorsque le prophète, alayhi salat wa salam, était à l'agonie, sur le point de mourir, n'est-ce pas qu'il a donné deux secrets dans l'oreille de Fatima ? Un qui lui a fait pleurer et l'autre qui l'a réjoui. Le premier, donc après sa mort, elle en a informé les compagnons. Le premier était le fait qu'il allait bientôt mourir. Et le deuxième était le fait qu'elle allait le rejoindre au paradis. Et combien de temps elle est morte après lui ? 6 mois. Radiallahu ta'ala anha. Parmi les compagnons également, il y a Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, j'ai entendu tes pas au paradis. Qu'est-ce que tu as fait pour cela? Il a dit, à chaque ablution, je n'ai jamais abandonné ou délaissé 2 rak'a. Il a maintenu une action pieuse pour Allah et elle lui a fait gagner cette place. Il y a également Ukasha ibn Mihsan, radiyallahu ta'ala an, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le hadith des 70 000 de la communauté qui entreront sans jugement ni châtiment. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin du récit dit aux compagnons 70 000 d'entre eux qui entreront sans être châtiés et sans être jugés, Ukasha s'est levé immédiatement. Ya Rasulallah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Invoque Allah afin que moi aussi j'en fasse partie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, anta minhum, tu en fais partie. Un homme s'est levé après, ya Rasulallah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ukasha t'a devancé. Ukasha, radiallahu an, t'a devancé. Également, Abdullah ibn Salam, radiallahu ta'ala an, qu'Allah l'agré, duquel le prophète alayhi salat wa salam a parlé en disant qu'il faisait partie des gens du paradis et d'autres. Chaque fois qu'un récit est authentique, nous devons y croire et dire telle personne entrera au paradis. L'auteur rahimahullah a dit wa yuqirruna bima tawatara bihi an-naql an amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu an wa ghayrihi. Ay tayyib. L'auteur, rahimahullah, nous dit que les gens de la sunna croient à ce qui a été rapporté, traduction très approximative, de manière rapporté par un nombre de compagnons tellement grand qu'on ne peut pas réfuter l'authenticité. Dans lequel Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, a informé أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان. Concernant le fait que les meilleurs de cette communauté après son prophète, le prophète de cette communauté sallallahu alayhi wa sallam, sont Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman. Uthman est donc dans l'ordre du mérite le troisième. وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِي. Et ils disent de Ali qu'il est le quatrième dans le mérite. Sachez qu'il y a 2 questions dans la différence entre Uthman ibn Affan radiyallahu anhu et Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Il y a 2 questions. La première, c'est ce que l'on appelle مَسْأَلَةُ الْأَفْضَلِيَّ, la question de qui est le meilleur d'entre eux. La deuxième question, mas'alatul khilafa, la question de l'autorité. Vous savez que quand le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, qui a gouverné les musulmans? Abu Bakr. Après lui, Omar. Après lui, Uthman. Et ensuite, Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Il y a donc 2 questions. Prenons la première, celle où il y a toujours eu consensus et unanimité. C'est la question de du gouvernement. Dans cette question-là, les gens de la Sunna ont toujours dit que Uthman radiallahu anhu passe avant Ali ibn Abi Talib dans le gouvernement. Et après Uthman doit venir et est venu Ali ibn Abi Talib. La deuxième question, c'est la question de qui est le meilleur d'entre eux. Qui est le meilleur d'entre eux? Dans cette question, il y a eu un laps de temps pendant lequel les savants de la Sunna ont divergé. Certains ont dit qu'il s'agissait de Uthman, radiallahu anhu. D'autres ont dit plutôt Ali. D'autres se sont abstenus. Et après ce laps de temps, ils ont tous été d'accord pour dire que c'est Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Et à partir de ce moment où ils ont été d'accord, il n'y a plus eu de divergence dans cette question-là. À savoir que Uthman ibn Affan est le meilleur entre lui et Ali. Et celui qui le devance dans Al-Khilafa, dans le gouvernement de la communauté musulmane du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Al-Bukhari rapporte d'après Muhammad ibn al-Hanafiyya qu'il a dit « Qultu li abi » J'ai dit à mon père « Ayyu an-nas khayrun ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam » Qui est le meilleur parmi les gens après le messager sallallahu alayhi wa sallam? Qala Abu Bakrin. Il répondit Abu Bakr. Qultu thumma man? Je dis alors qui après lui? Qala Umar. Il dit Umar. Wa khashitu an yaqula Uthman. Qultu thumma man? Qal ma ana illa rajulun min al-muslimin. Je dis qui d'autre? Ali répond Ali radiallahu anhu répond je ne suis qu'un homme parmi les musulmans. Dis pas son nom. Je ne suis qu'un homme parmi les musulmans. Les sahaba radiallahu anhum étaient des gens modestes. Ils ne disaient pas je suis le meilleur, je suis le meilleur. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi alors, dans des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis le meilleur? C'est une question qui n'est pas bête. Et sa réponse est la suivante. Car si lui, qui est ton enseignant, qui est venu t'apprendre la croyance de ta religion, ne te le dit pas, qu'est-ce qu'il va te le dire? Lui, il t'enseigne la croyance que tu dois avoir. Il t'enseigne la foi. Il doit donc te dire qu'il est le meilleur pour que tu puisses croire et adhérer à cette foi et avoir cette croyance. C'est pour ça qu'il dit « Ana sayyidu waladi Adama wala fakhr » Je suis le meilleur des enfants d'Adam. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Sans vantardise, sans me vanter. Il t'a enseigné une croyance que tu as pu avoir. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, est bien sûr loin de tout orgueil, de toute vanité et de toutes ces maladies du cœur, car il est notre modèle dans la pureté du cœur, sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Salih al-Fawzan nous dit « وَاخْتَلَفُوا فِي عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيُّهُمَا أَفْضَلْ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ هُنَا فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ حَيْثُ يَقُولْ فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. Les gens ont divergé concernant Uthman et Ali, qui est le meilleur d'entre les deux. Ils ont eu trois paroles. Certains ont dit qu'il s'agissait de Uthman, d'autres ont dit Ali, d'autres se sont abstenus. C'est donc la question que vous venez d'entendre. Et l'auteur, rahimahullah, a retenu que le meilleur c'est Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Je lis donc la parole de l'auteur. Il nous dit « كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. On le voit dans les preuves, et les compagnons ont été unanimes pour prêter allégeance à Uthman avant Ali, radiyallahu anhu, lorsque Omar est mort. Lorsque Omar est mort, radiyallahu anhu, il a désigné 6 hommes. On les appelle Ashab al-Shura, les hommes de la consultation, des gens doués de raison et de science parmi les nobles et pieux Sahaba, radiyallahu anhum. Ils se sont concertés pour savoir qui est-ce qu'ils allaient désigner pour succéder à Omar radiyallahu anhu après son assassinat. Les compagnons ont été unanimes pour choisir Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. Comme je vous l'ai dit, il y a eu une divergence entre les gens de la Sunna sur la question qui est le meilleur d'entre eux. Et ensuite, ils ont tous été d'accord pour dire qu'il s'agit de Uthman. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit que c'est la question, c'est l'avis prépondérant pour les raisons suivantes. Premièrement, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Uthman est meilleur? Premièrement, أن هذا هو الذي دلت عليه الآثار الواردة في مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه. Car cela est ce que l'on retrouve dans les récits rapportés concernant les mérites de Uthman ibn Affan. Qu'Allah l'agré. Lorsque l'on voit les mérites, on voit qu'il a un niveau au-dessus. Deuxièmement, إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة وما ذاك إلا أنه أفضل فتربيتهم فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. Le consensus que l'on a mentionné des compagnons pour désigner et prêter allégeance à Uthman ibn Affan en tant que gouverneur des musulmans après l'assassinat de Omar et donc pour lui succéder. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit ils ne l'ont fait que par conviction qu'il est le meilleur radiyallahu ta'ala anhu. Troisièmement, annahu istaqarra amru ahli sunnati ala taqdimi Uthman thumma Ali, car les gens de la sunna après le moment de divergence se sont arrêtés sur une seule parole et ont dit que Uthman est meilleur que Ali radiyallahu ta'ala anhu. Tout comme ils l'ont mis en avant dans l'allégeance qu'ils lui ont prêtée après le décès de Omar, qu'Allah l'agré. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit qala Abdurrahman ibn Auf li Ali. Abdurrahman ibn Auf, dont on a parlé, a dit à Ali ibn Abi Talib inni nazartu amra an-nasi falam arahum ya'diluna bi'Uthman. Qala Abu Ayyub man lam yuqaddim Uthman على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فهذا دليل على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم بعد تشاورهم، وكان علي رضي الله عنه من جملة من بايعه وكان يقيم الحدود بين يديه. Pour résumer de façon très simple, Ali ibn Abi Talib faisait partie de ceux qui lui ont prêté allégeance. Je vous ai résumé une phrase. Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه a fait partie de ceux qui ont prêté allégeance à Uthman ibn Affan, qu'Allah les agrée tous. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, parle de la question de la différence entre Uthman et Ali. Est-ce que dans cette question, celui qui dit, après l'unanimité des ulama et des gens de la sunna, à l'unanimité sur laquelle ils ont dit que Uthman est meilleur, est-ce que quelqu'un qui viendrait après et dit Ali est meilleur pourrait être taxé d'égaré ou non? Écoutez ce que dit l'imam. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. La question de est-ce Othman ou Ali qui est le meilleur d'entre les deux ne fait pas partie des fondements qui, lorsqu'ils sont contredits, la personne est égarée. Vous avez compris ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une divergence chez les gens de la Sunna. Pour cela, on ne peut pas dire que cette question fait partie des fondements qui, lorsqu'ils sont contredits, celui qui les a contredits s'est égaré. Et cela chez la majorité des savants. Mais la question où l'on dit que celui qui contredit est égaré, c'est la question del khilafa, du gouvernement. Vous avez compris ? Il y a deux différences. Qui est le meilleur et qui doit passer avant l'autre dans le gouvernement ? Nous savons que les gens de la Sunna sont unanimes, après avoir quelque peu divergé, pour dire que Uthman est meilleur que Ali, radiallahu anhu. Et ils ont toujours été unanimes pour dire que Uthman devait être le gouverneur avant Ali, radiallahu anhu. Si quelqu'un vient et dit c'est Ali qui devait l'être et non Uthman, celui-là ne fait pas partie des gens de la Sunna. Il fait partie des gens de l'égarement, de la bid'a et du mal. Et c'est dans cette question-là que la personne quitte ou non la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les gens de la Sunna ont pour croyance que l'ordre est le suivant: Abu Bakr, Umar, Uthman et Ali radiallahu anhu. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: quant à celui qui dénigre ou essaie de remettre en doute le gouvernement dirigé par Uthman, qu'Allah l'agrée, eh bien, il est plus égaré encore que l'âne de son village. Il est plus égaré encore que l'âne de son village. Donc voici les deux questions qu'il ne faut pas confondre. Les gens de la Sunna ont donc cette croyance. Et on a cité quelques points. Et de manière résumée, ces quatre compagnons qui ont été cités sont appelés Al-Khulafa Al-Rashidun, les califes bien guidés. Le premier, c'est Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. On l'appelait Khalifatu Rasulillah, le calife du messager d'Allah, le successeur du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après lui, à partir de Omar, ils ont tous été appelés Amirul Mu'minin, le gouverneur des croyants. Pourquoi n'ont-ils pas été appelés successeurs ? Le Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad a dit, car sinon on aurait dû dire Omar est le successeur du messager. Puis pour Uthman, on aura dit le successeur du messager. Alors on ne l'a dit que, et ainsi de suite. On s'est arrêté à Abu Bakr, on a dit le successeur, et pour les autres, le gouverneur des croyants. Voyez un peu Ahl Sunna et son droit même dans leurs mots. Radiallahu anhum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le récit connu: Alaykum bi sunnati, cramponnez-vous à ma sunna, wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin min ba'di, et à celle de mes califes bien guidés après moi. Donc on voit ici très clairement le mérite de ces quatre califes qui sont ceux que l'on vient de citer. وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخ. Et pour cette raison, le Cheikh a dit: quiconque remet en doute le gouvernement, de l'un d'entre eux, pas seulement de Uthman, de l'un d'entre eux, j'ai dit de Uthman, c'est une erreur, de l'un d'entre eux, les quatre, il est alors plus égaré encore que l'âne de son village. Le Cheikh Al-Fawzan nous dit ceci car il aura contredit un texte tranchant et le consensus des gens de la Sunna sans aucune preuve. Et à l'image des Rafida, les chiites, qui ont dit que c'était Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui devait être le calife après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont taxé les autres d'apostats, de mécréants, wal'iyadu billah. Ce qui est à retenir dans cette question, c'est, comme dit le Cheikh Al-Fawzan, celui qui fait devancer Ali, il est égaré à l'unanimité. Qui dit c'est Ali qui devait être gouverneur. Il est égaré. Deuxièmement, celui qui le fait devancer, donc dans le premier, pardon, celui qui le fait devancer dans le gouvernement. Deuxièmement, celui qui le fait devancer à Abu Bakr et à Omar est un égaré également. Troisièmement, celui qui le fait devancer à Uthman dans est-ce qu'il est meilleur ou non, dans cette question-là, on ne dit pas de lui qu'il est un égaré. Mais il n'a pas été en accord avec la parole qui a été sur laquelle se sont arrêtés les gens de la Sunna après avoir quelque peu divergé. Voici la question de Sahaba radiallahu ta'ala anhum. L'auteur rahimahullah passe maintenant aux proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de sa famille. Wa yuhibbuna ahla bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa yatawallawnahum wa yahfadhuna fihim wasiyata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala yawma ghadir khummin أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. Le sujet suivant porte, comme vous allez le comprendre, sur les proches parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les proches parents, les gens de sa famille. Les gens de la sunna, nous dit l'auteur, aiment ce que l'on appelle ahlul bayt, les gens de la maison. Les gens de la maison, les gens de sa famille. Les gens de la famille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils les prennent en alliés et respectent l'injonction que leur a faite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour appelé, c'est un jour qui était appelé Yawm al-Ghadir Khum, un jour où il s'est passé quelque chose, on le verra. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, leur a dit أذكركم الله في أهل بيتي. Je vous rappelle Allah, c'est-à-dire je vous rappelle de craindre Allah, d'observer les ordres d'Allah envers les gens de ma maison, de leur donner une attention particulière, un respect particulier. Il a dit aussi à son oncle paternel, Al-Abbas, qui s'est plaint à lui. Il s'est plaint à lui de Banu Hashim, des gens qui à la base ont un lien avec lui. Il s'est plaint du manque dans le lien de parenté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, qu'ils ne seront croyants, c'est-à-dire de façon complète et parfaite, que lorsqu'ils vous aimeront pour Allah et aussi en raison de ma proximité avec vous, du fait que je suis de votre famille. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a élu la descendance de Ismaïl. Et il a élu Kinana, dans la descendance de Ismaïl. Il a élu de Kinana Oreish. Ce sont des noms de personnes là. Oreish à la base c'est quelqu'un. Il a élu de Kinana Oreish. Et il a élu de Quraysh Banu Hashim. Et de Banu Hashim, il m'a élu. Pour dire que le prophète alayhi salatu wassalam a la meilleure généalogie. Et qu'il fait partie des meilleurs parmi les meilleurs. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc la croyance des gens de la sunna, de les aimer, de les respecter. Qui sont ceux qui sont appelés Ahlul Bayt? Ils sont ceux qui n'ont en rien le droit de recevoir la sadaqa. Toute personne faisant partie des proches parents ou alors ayant un lien de sang avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le droit à la sadaqa. Car le prophète aussi n'a pas le droit à la sadaqa sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là, le Cheikh Salah Al-Fawzan nous dit « Fahum alu Ali » sont les gens de la famille de Ali « Wa alu Ja'far » la famille de Ja'far « Wa alu Uqayl » Uqayl « Wa alu Al-Abbas » la famille de Al-Abbas « Wa Banu Al-Harith » tous les gens de Banu Al-Harith « Ibn Abdil Muttalib » « Wa Azwaj Nabi sallallahu alayhi wa sallam » toutes ses épouses وبناته, ses filles, من أهل بيته, font partie des gens de sa maison, صلى الله عليه وسلم. Et Allah عز وجل a dit concernant tous ces gens, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah ne veut que enlever de vous toute souillure, ô les gens de la maison, et vous purifier complètement. Les gens de la sunna, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, les aiment, les respectent, les honorent, en raison du respect que leur a donné le prophète même, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a même donné l'ordre. Allah nous a donné l'ordre, et même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils les prennent pour alliés, et ils respectent le conseil ou l'injonction que leur a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce jour appelé Yaum Radir Khum, le jour de Radir Khum. Qu'est-ce que cela veut dire? Radir, c'est un terme qui signifie un point d'eau. Un point d'eau. Voyez-vous quand l'eau coule? Quand l'eau qui coule au sol dans les vallées forme des petits ruisseaux, cette eau coule. Et toutes les eaux qui coulent d'ici et là viennent se rejoindre dans un point, comme un bassin. C'est ça que l'on appelle le radir en arabe. Et khum, soit c'est le nom d'un homme, ou alors c'est le nom d'un arbre qui était à côté de ce bassin. Et dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est passé quelque chose là-bas. C'est pour ça que l'on l'a appelé ce jour-là comme cela. Pour résumer, c'est le jour du bassin de l'homme qu'on appelle Khum, ou alors Khum veut dire un arbre qui était à côté de ce bassin, de cette retenue d'eau. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé le discours dans lequel il leur a dit « Udhakkirukum Allah fi ahli bayti » « Je vous rappelle Allah » c'est-à-dire je vous rappelle d'observer les ordres d'Allah à l'égard des gens de ma maison, en leur témoignant le respect, l'amour et tout ce qui s'y rapporte. Et dans le récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ils ne seront véritablement croyants que quand ils vous aimeront pour Allah et en raison de ma proximité avec vous ». Deux choses ont été soulevées ici, comme le dit le Cheikh Al-Fawzan. Le premier, c'est le fait de les aimer pour Allah. Car le croyant, lorsqu'il aime, il aime pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et parce que ces gens font partie des alliés d'Allah. Deuxièmement, du fait qu'ils sont les proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cela montre qu'il en est satisfait. Alayhi salatu wassalam. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a montré sa généalogie et le fait qu'il a été choisi des meilleurs. Ce qui est à retenir de ces récits, c'est la preuve du mérite des Arabes, les Arabes de souche, les Arabes du temps du prophète alayhi salatu wassalam. Ils avaient un mérite particulier. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a révélé le Coran, sa parole, en leur langue. Ce n'est pas pour rien. Et cette langue est une langue qui est très riche, qui est très très riche. Et Quraysh étaient les meilleurs des Arabes. Banu Hashim, la tribu Banu Hashim, était les meilleurs de Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur de Banu Hashim. C'était donc le meilleur des hommes. Afdalul Khalqi, le meilleur des hommes, tant bien en lui-même que dans sa généalogie et dans tout, sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur rahimahullah a dit: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. Ils prennent aussi en allié toutes les épouses du prophète صلى الله عليه وسلم qui sont les mères des croyants, et ils croient qu'elles seront ses épouses dans l'au-delà aussi. خصوصاً خديجة, particulièrement Khadija, qu'Allah l'agrée, Umm akthari awladi, la mère de la plupart de ses enfants. Elle fut la mère de tous les enfants qu'il a eus, sauf Ibrahim, son garçon qui est mort, qui est né et qui est mort en bas âge. Il a eu Ibrahim avec Maria al-Qibtiyya, celle que l'on appelle Maria al-Qibtiyya. Sinon, tous les autres, il les a eus avec Khadija, qu'Allah l'agrée. وأول من آمن به, c'est la première personne qui a eu foi en lui en tant que messager, c'est Khadija. وعاضده على أمره, la première personne qui l'a soutenu. وكان لها منه المنزلة العالية, elle occupait chez lui un haut rang. والصديقة بنت الصديق, ensuite il cite la véridique, la fille du véridique. C'est qui? Aïcha, radiyallahu anha, qui est la fille de Abu Bakr, radiyallahu anha. Allati qala fiha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de laquelle il dit: Fadlu Aïcha ala an-nisa ka fadli al-farid ala sa'ir al-ta'am. Le mérite de Aïcha par rapport au reste des femmes est semblable au mérite d'une nourriture que l'on appelle al-farid par rapport aux autres nourritures. Et à leur époque, le farid, c'était parmi les meilleures des nourritures. Pour dire que Aïcha radiallahu anha fait partie des meilleures femmes. Ainsi, l'auteur rahimahullah a cité la croyance des gens de la sunna vis-à-vis des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les prennent en allié et elles sont les mères des croyants. Et quand nous disons qu'elles sont les mères des croyants, elles sont nos mères dans le respect que nous leur portons et dans l'interdiction qu'avaient les compagnons de les épouser. En cela, elles sont nos mères. Quant aux autres règles, elles sont comme les femmes qui nous sont étrangères. C'est-à-dire que le fait de dire que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants, cela veut-il dire que les croyants avaient le droit de les voir à visage ou alors dévoilées? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais elles sont leurs mères dans le respect et dans l'interdiction de les épouser. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam épouse une femme, puis est amené à s'en séparer, un compagnon n'avait pas le droit de l'épouser après lui. En respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux autres règles, le fait de s'isoler avec elle, c'est interdit pour toute personne qui n'a pas un lien de parenté permettant cela, comme le fils, le père et tous les autres mahrams. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Le prophète a plus de droits envers les croyants qu'ils n'en ont envers eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا. Il ne vous appartient pas de nuire au messager d'Allah, non plus d'épouser ses épouses après lui, et jamais. Cela est immense auprès d'Allah. Dans l'autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Et quand vous voulez leur demander une quelconque chose, demandez-leur derrière un voile. Donc dans les règles de la vie de tous les jours, elles n'ont pas les mêmes règles que la mère de sang. Elles sont des femmes étrangères. Et elles ont le respect. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda en laissant derrière lui 9 épouses. Et ça, c'est une particularité à lui seul, sallallahu alayhi wa sallam. Il en a eu 11 en tout. Certains disent 13. Et en même temps, 9. Il décéda en laissant 9, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, la première, nous avons dit, c'est qui? Nous avons dit que la première, c'est Khadija. Il l'a épousée alors qu'il avait 25 ans, sallallahu alayhi wa sallam, et elle avait 40 ans. Khadija a plusieurs mérites. C'est la première personne qui a cru en lui, qui l'a soutenu. Elle l'a aidé avec ses sous, alayhi salatu wassalam. Tous ses enfants, il les a eus avec elle, sauf Ibrahim. Il n'a jamais épousé une autre femme en même temps que Khadija. Il l'aimait énormément, au point où quand elle était morte, quand elle est partie, qu'Allah l'agrée, il parlait souvent d'elle. Khadija aimait bien telle chose. Khadija voulait toujours telle chose. Khadija, Khadija. Au point où les autres épouses lui ont dit: oh, messager d'Allah, tu es tout le temps là à citer Khadija. La jalousie naturelle. Allah t'a remplacé par meilleur. Le prophète alayhi salam lui a dit: non, il ne m'a pas remplacé par meilleur qu'elle. Elle m'a soutenu quand les gens m'ont abandonné. Elle m'a épaulé. Elle m'a. Khadija radiallahu ta'ala anha a énormément de mérite. Qu'Allah azza wa jal soit satisfait d'elle. Et elle décéda avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 ans avant qu'il n'émigre et qu'il ne quitte la Mecque vers Médine. C'est seulement après cela que le prophète alayhi salatu wa sallam a commencé à épouser d'autres femmes. Parmi ses épouses, il y a Aïcha radiallahu anha, qui fait partie aussi des meilleures épouses. Et subhanallah, il y a eu divergence. Qui est la meilleure épouse, Aïcha ou Khadija? Et à cause des récits qui ont été relatés les concernant, certains ont dit que c'est Aïcha, d'autres ont dit que c'est Khadija. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, de par sa science profonde, a dit: d'une part c'est Khadija et d'autre part c'est Aïcha. Si on dit qui est la meilleure du point de vue du soutien qu'on lui a apporté et du fait qu'elle a été avant dans l'islam, avant les autres, on dit c'est Khadija. Si on dit qui est la meilleure dans la science, c'est Aïcha. Aïcha radiallahu ta'ala anha est une des plus grandes savantes de cette communauté. Et dans beaucoup, dans la plupart des livres de fiqh, il y a énormément de règles religieuses qui nous sont rapportées par Aïcha. Et les grands sahaba radiallahu ta'ala anhum posaient des questions à Aïcha. À quel âge est morte Aïcha? Écoutez bien, à 18 ans. Radiallahu ta'ala anha. Allahu Akbar. Qu'Allah la gré. Khadija radiallahu anha, parmi ses particularités, Khadija radiallahu ta'ala anha, le fait qu'elle n'a jamais mis en colère le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne lui a jamais fait une nuisance. Allahu Akbar. Elle ne l'a jamais mise en colère sallallahu alayhi wa sallam. Après Khadija, il a épousé Sauda bint Zum'a. Sauda, qu'Allah l'agré, on ne peut pas citer tout comme ça en détail, l'essentiel. Il a épousé Sauda, il a épousé Hafsa, qui est la fille de qui? De Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Il a épousé Zainab bint Jahsh. Il a épousé Umm Salama, Safiya, Maimouna, Umm Habiba, Juwayriya. Voici quelques épouses ou les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Salah Al-Fawzan a cité quelques mérites de Khadija, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée. Quant à Aïcha, Aïcha est la fille de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu ta'ala an. Non. Parmi les mérites de Aïcha radiallahu ta'ala anha, comme il est dit, elle fait partie des plus aimées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de toutes ses épouses, c'est la seule femme vierge qu'il a épousée. Sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les grands mérites de Aïcha, c'est que quand la révélation venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était souvent auprès d'elle. Elle a vécu la révélation. Allahu Akbar. Et quand la révélation venait, le prophète devenait lourd. Alayhi salatu wassalam. Il devenait lourd. Et des fois, il avait des sueurs froides. Eh bien, elle était à ses côtés. Elle a vécu cela. Elle a vécu la révélation. Tu peux l'accuser après cela? Tu peux l'insulter après cela? Subhanallah. Qabbahallah rawafid. Qu'Allah enlédisse les chiites. Allah tabaraka wa ta'ala a déclaré son innocence dans le Coran. Quand elle a été accusée à tort. Elle a été accusée d'adultère. Cette accusation a dérangé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a perturbé, a perturbé son père Abu Bakr. Qu'Allah l'agré. Elle a patienté. Et quand Allah azza wa jal a révélé les versets montrant et prouvant son innocence, son père Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit d'aller se diriger vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme pour le remercier. Qu'est-ce qu'elle a répondu, cette femme du tawhid? Je ne me dirige que vers Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et quand elle est morte, qu'Allah l'agré, elle avait demandé, avant de mourir, à ce que ce soit Abu Huraira qui prie sur elle. Abu Huraira, le plus grand apporteur de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a prié sur elle et ils l'ont enterré dans le cimetière de Baqi' à Médine. Celui qui est à côté de la tombe de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu.